Bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on va parler pommitude avec Marine et Gabriel. Elles ont toutes les deux, en sortie d'études, mis un peu de temps avant de trouver la voie vers laquelle elles voulaient s'orienter. Marine a d'ailleurs choisi de prendre un chemin de traverse après avoir testé quelques options. Et Gabriel s'est orienté récemment vers le domaine des jeux vidéo après avoir fait une petite excursion vers la culture et l'édition. Pendant cet échange, elles vont parler de leur rapport à la réussite, de leur rapport à l'argent et à l'épanouissement au travail. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute.
Du coup, moi, c'est Marine, j'ai 27 ans. Et pour parler un petit peu de mon parcours, j'ai fait l'EM Lyon aussi. Après un chemin très classique de bac S et classe préparatoire, j'ai fait cette école un peu sans grande conviction parce que je savais pas tellement quoi faire. Enfin, j'avais pas vraiment d'idée, j'étais bonne à l'école et voilà, on t'oriente vite vers la prépa, les écoles de commerce parce que ça mène à tout. Donc, j'ai fait ça. J'ai pas vraiment accroché avec ce que ça pouvait m'ouvrir de voie traditionnelle, disons. Du coup, j'ai fait des stages un peu dans des domaines pas vraiment directs, comme la culture. J'ai fait deux stages en culture et un stage en agence de communication. Et donc, j'ai été diplômée en mars 2019. après quoi, j'ai pas direct entamé de recherche d'emploi. Je suis partie en Australie pendant 6 mois parce que j'ai un peu flippé après ma remise de diplôme. Je me sentais pas du tout prête. Je savais pas ce que je voulais faire. J'étais un peu paumée. Et puis dans ma vie perso, j'avais des petits soucis qui faisaient que j'avais besoin de prendre une grande pause que j'ai prise. Et donc je suis revenue à la fin de l'année dernière hyper à fond quoi. Pour la recherche. Et donc, je savais que j'avais envie de trouver un job dans la culture. Et je me disais que le bon compromis pour travailler dans la culture et être payé bien, enfin, ouais, ce que j'estimais être ce que je valais, entre guillemets, je me disais que le compromis, c'était de travailler dans une entreprise privée, en fait, dans la culture. Et la voie que j'ai choisie, c'était la voie start-up, parce qu'il y a pas mal de start-up dans l'écosystème culture. Et donc, j'ai trouvé un poste dans une d'elles en tant que chargée de développement, business developer, un peu ces deux-là. Et j'ai trouvé donc assez rapidement dans une boîte que j'ai adorée avec une équipe géniale. Donc vraiment, c'était idéal, c'était parfait, sauf que c'était à Paris. Donc c'était le point un peu clivant, enfin pour moi en tout cas, parce que Paris, c'est vraiment une ville qui ne me convient pas, où j'avais déjà testé et je sais que ça ne m'allait pas. Mais je l'ai fait quand même parce que à un moment, tu dis que c'est un peu obligatoire, que plein de gens y passent. Alors bon, je pouvais le faire, quoi. Surtout pour travailler dans la culture, c'est quand même un passage obligé. Donc j'y suis allée. J'ai commencé fin février et en fait, il y a eu le confinement 3 semaines plus tard. Donc ça a pas mal changé les choses. Je suis redescendue chez moi dans le sud et j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai redéclenché des réflexions en fait que j'avais depuis 2 ans voire plus, et je me suis posée, je me suis demandé pourquoi je faisais les choses, qu'est-ce que je voulais faire, et vraiment je me suis interrogée sur mes choix passés et présents futurs quoi. Et très rapidement, j'ai vu que ça allait pas être possible pour moi de retourner à Paris, pas possible, que j'avais pas envie en fait, que je voulais pas continuer à choisir en pleine conscience de retourner à Paris. Donc j'ai pris la décision assez vite, au bout de 2-3 mois, de quitter mon CDI, ce qui n'était pas facile. Mes managers ont été très très compréhensifs. Je leur ai expliqué donc ma démarche, que c'était donc mon envie de quitter Paris, que c'était pas la vie que j'ai envie de mener. Et puis même en termes de d'activité, j'avais envie de faire autre chose de mon temps. Notamment, j'ai des préoccupations écologique et une envie de m'investir à un autre niveau ce que je faisais. Et je me suis dit que bah, c'était peut-être le moment de faire ce changement et d'aller vers un secteur qui me qui correspond plus à mes valeurs et à ce que je pense aujourd'hui, à qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai quitté mon job fin septembre avec une rupture conventionnelle, ce qui est une énorme chance. Et aujourd'hui, donc, bah, j'explore plein de choses. Je suis bénévole dans une association qui évolue dans le secteur de l'ESS et notamment sur une plateforme de financement participatif pour les projets de la transition. Et voilà, et je postule à des offres quand ça me plaît, tout simplement. Quand je me dis, bah, ça m'intéresse. Et puis, je me laisse du temps aussi pour réfléchir et pour profiter, en fait. Donc, voilà. Et toi?
Alors, moi, je m'appelle Gabrielle, j'ai 24 ans, j'ai fait aussi l'EM Lyon. Un peu pareil que toi, en fait, parce que j'ai fait le parcours classique prépa école de commerce, c'est la voie généraliste, ça va mener à tout, vu que je sais pas trop ce que je veux faire, tout en ayant en tête, c'est marrant maintenant que j'y repense, j'avais toujours en tête un peu de faire du marketing depuis le début, et visiblement ça s'est confirmé du coup au cours de l'EM Lyon. Mais du coup, pendant mon parcours à l'EM Lyon, je me suis plutôt spécialisée en marketing, tout en gardant toujours des petits cours qui m'auraient permis de me réorienter si jamais je voulais. Donc, par exemple, j'ai toujours pris des cours de finance au cas où, alors que ça avait pas grand-chose à voir avec ce que je voulais faire, mais j'avais toujours un peu peur de me rendre compte un jour que finalement, je voulais faire de la finance. Voilà, j'achetais des petits bouquins de finance de temps en temps au cas où. Et à la fin, à la fin de l'EM, en stage de fin d'études, j'ai fait mon premier stage vraiment dans le secteur culturel, donc dans une maison d'édition, et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, je me suis mise à chercher mon premier CDI, et le confinement est arrivé, et du coup, j'ai finalement décidé de refaire un stage parce que je ne trouvais pas. Et j'ai fait un stage du coup dans un éditeur de jeux vidéo parce que ça faisait longtemps que je voulais rentrer dans ce secteur. J'avais pas mal postulé aussi quand je cherchais des stages et ça s'était jamais fait et voilà. Et du coup là, je pense que c'est vraiment un secteur qui me plaît, enfin en tout cas l'objet culturel du jeu vidéo me plaît beaucoup et j'aime beaucoup travailler là-dedans parce que du coup, enfin, t'as tout un aspect. En fait, pendant longtemps, je me suis dit que c'était un bon compromis aussi comme industrie entre quelque chose d'assez créatif et quelque chose qui est quand même une industrie assez, on va dire, commerciale par rapport à d'autres secteurs culturels. Parce que bah, c'est quand même un des secteurs où l'objectif, c'est quand même assez clairement de vendre des jeux, etc. Même si t'as un côté très artistique de certains jeux indépendants, mais enfin voilà. Et du coup, c'est cool parce que bah, t'as quand même des enjeux marketing, etc. intéressants et t'as tout un côté créatif où tu parles avec les producteurs, etc. Et voilà. Et du coup, ça me plaît beaucoup.
C'est rigolo ce que tu disais sur le fait que pendant l'EM, tu savais que voilà, le marketing c'était un peu ton truc, mais que t'es pris des cours à côté pour te laisser des portes ouvertes en fait. Hein. J'ai un peu l'impression que c'est ça, hein, d'ouvrir des portes comme ça si jamais un jour t'as envie d'y aller, bah, tu peux te dire je l'ai fait. Oui, moi j'ai un peu fait ça aussi, mais pas moi, c'était pas vraiment des trucs ciblés, tu vois, c'est juste que vraiment moi je ne savais pas du tout, enfin il y avait rien qui vraiment je me disais je veux faire du marketing, de la finance, de la RH, c'était voilà. Mais du coup je me suis pas spécialisée, j'ai pris des cours de un peu tout. Et du coup je me posais la question parce que c'est un sujet dont j'avais parlé avec Apolline, je sais pas si toi t'as eu ça, mais le fait justement de pas être toi encore t'es plus spécialisée que moi, mais même si t'as cette envie de te laisser des portes ouvertes, est-ce que ça te fait pas un peu une peur de pas avoir un profil cohérent? Peur de me dire, vu que je suis pas spécialisée dans rien, enfin que je suis spécialisée dans rien, c'est un peu le truc de syndrome de l'imposteur où je me dis en fait, j'ai pas d'expertise très centrée sur un sujet, d'autant plus que j'ai fait des stages un en culture, un en machin, enfin très très divers. Je sais pas si t'as eu ce sentiment là après l'école, en tout cas moi j'ai l'impression que l'EM m'a beaucoup fait ressentir que la recherche de la cohérence, c'était quelque chose de clé, en fait, hyper important pour le monde du travail. Et aujourd'hui, je passe un temps énorme et beaucoup d'efforts à essayer de déconstruire ça et de vraiment me décomplexer sur le fait que c'est pas grave, en fait, de se tromper, de changer, de faire quelque chose de moins cohérent, enfin, de pas cohérent, et c'est pas grave. Ouais. Enfin, d'ailleurs, pourquoi chercher la cohérence, quoi. Je sais pas si t'as juste ressenti ce ressenti-là.
Oui, si, clairement. Enfin, je pense que c'est... En fait, j'avais deux peurs un peu pendant le M. C'était à la fois la peur de pas avoir un CV cohérent et la peur de pas pouvoir tester tout ce que je voulais et du coup... de me retrouver dans une voie un peu toute tracée, typiquement le marketing. En fait, c'est presque ça me stressait de pas avoir changé de voie en entrant à l'EM. Enfin, de pas parce qu'il y a des gens, du coup, ils entrent à l'EM, ils prennent des cours. Ah, il y a des cours qui les intéressent plus que d'autres et du coup, enfin, ils trouvent un peu quelque chose qui les intéresse. Et du coup, moi, j'avais l'impression d'être arrivée et de pas avoir bougé du tout. Et oui, et en même temps, enfin, je sais pas si c'est que l'EM qui a cette influence-là sur l'histoire de la cohérence du CV ou si c'est aussi le marché. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis très stressée de la cohérence. notamment là, en fait, au tout début, 2 mois après le début de mon stage là, dans ma boîte, ils m'ont proposé un CDD, mais en relation presse, parce qu'il y avait quelqu'un qui partait. Et du coup, moi, ça avait été un peu la panique dans ma tête parce que j'étais là, oulala, trop bien un CDD, c'est pas, enfin, en soi, la relation presse, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais en même temps, est-ce que c'est une opportunité de rester dans la boîte, etc. Enfin, bon, un peu panique à bord. Et j'ai réfléchi et c'est vrai que, enfin, j'ai refusé du coup. Et notamment, je pense pour la cohérence du CV. Parce que j'avais très peur ensuite de me retrouver encore dans une galère de vous n'avez pas assez d'expérience dans tel domaine, on veut un chef de produit avec 3 ans d'expérience. Du coup, voilà. Et aussi parce que je me suis dit que finalement les relations presse ça m'intéressait pas tant que ça et que j'allais pas accepter juste pour la stabilité du poste. Voilà.
En fait, je pense que, enfin, de mon côté, quand tu me dis ça. Pour moi, l'élément clé, c'est que tu as refusé parce que ça te plaisait pas tant que ça. Parce qu'en fait, le reste, c'est la seule chose en fait qui est importante. En fait, c'est est-ce que ça te botte ou pas. Après, si ça avait été, je sais pas, quelque chose qui te tente, bah, t'aurais pu le faire, même si c'est pas cohérent avec le profil marketing. Je pense qu'à un moment, il faut aussi pouvoir te dire que. Tu suis aussi ce que tu as envie de faire et que tu as quand même des bons instincts, quoi.
Oui. Après, honnêtement, je pense que là, si j'avais su, par exemple, que c'était quelque chose... si j'avais su qu'on me proposait vraiment quelque chose à la fin en tant que chef de produit, etc., et que c'était un truc temporaire, je pense que j'aurais dit oui en me disant, pour 6 mois, je fais ça. Au pire, ça me plaît pas à 100%, mais je pense que ça ira. Mais j'accepte parce que je sais que derrière, j'ai une certaine stabilité. Et je pense que j'ai été un peu, un peu traumatisée des 6 mois, 6 mois de chômage, sans chômage, du coup, post-diplôme. Parce que je pense que aussi, on est influencé par l'EM dans le sens où tu te dis que t'as un super diplôme, etc. Et du coup, tu vas direct trouver après ton diplôme et que ça va être super facile et qu'on va trop te vouloir, etc. Et bon, après, c'est un contexte particulier avec le Covid. Mais du coup, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais jamais, jamais envisagé, par exemple, de refaire un stage et de payer pour refaire un stage. Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans, et là, je pense que j'ai un peu peur que ça de rempiler encore après ce stage, quoi.
Ouais, je comprends. Alors. Après, c'est marrant parce que je t'écoute, j'ai l'impression de m'entendre, mais il y a un an, c'est juste que, en fait, je comprends ce besoin de contrôler, tu vois, de savoir et de que ce soit cohérent et de te dire ah ouais, du coup, après ça, je vais faire ça, et que ce soit un schéma presque, tu vois, un truc, une ligne avec même si, tu vois, un truc, voilà. Et je sais pas, mais c'est peut-être parce que cette année, pour moi, a été genre des montagnes russes absolues, ouais. Parce que j'ai trouvé un CDI, j'ai quitté le CDI, je me change complètement de chemin. Et puis tout ce qui a été le Covid, en fait, moi personnellement, ça m'a beaucoup touchée dans ce que ça représente et ce que ça implique aussi sur notre monde, ce que ça veut dire, ce que ça montre de la société, tout ça. Et aujourd'hui, tu vois, pourtant je te jure, hein, je suis encore comme ça, mais moins, mais j'ai cette caractéristique, tu vois, de me mettre aussi beaucoup de pression sur la cohérence, sur le fait de trouver. Alors, je me suis mis la pression, je sais pas, enfin, toujours encore, mais je déconstruis ça, mais de devoir trouver le métier qui me plaise, qui m'épanouisse, tu vois, déjà un truc qui vraiment, je trouve, qui ne va pas à tout le monde et moi qui ne me convient pas, en fait. Mais surtout, aujourd'hui, tu vois, j'arrive à me dire qu'en fait, déjà, faire des plans et tout, enfin, moi, tu m'aurais dit que j'aurais trouvé un CDI, quitté le CDI, qu'on en serait là aujourd'hui, que je serais au point, à l'endroit où je suis aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis. Enfin, j'aurais pas cru, j'aurais pas imaginé, tu vois. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, je me dis, bon, je sais pas grand-chose, je doute de plein de trucs et je contrôle absolument pas grand-chose, mais c'est pas grave, en fait. Et en fait, j'aimerais bien, si je pouvais te donner un conseil, c'est que même si après ton stage, on te propose pas quelque chose immédiatement dans cette boîte ou qu'on te propose pas du tout ou que tu dois te remettre en recherche d'emploi, dis-toi que c'est pas grave et qu'en fait, les temps aussi que t'as où tu as du temps pour réfléchir, pour douter, du temps libre, bah, c'est du temps aussi pour toi apprendre à te connaître mieux et que c'est pas grave et qu'on nous met en tête, oui, qu'il faut être productif, qu'il faut avoir un travail, que surtout quand tu sors de l'EM, moi j'avais ressenti vraiment une grosse pression s'abattre sur mes épaules, quoi, en mode ça y est, j'ai fini mon diplôme, faut que je trouve un job à responsabilité, que je sois cadre, que je gagne tant, tu vois. Alors qu'en fait, après, voilà, chacun a son chemin personnel, mais aujourd'hui, je vois plus du tout les choses comme ça et je pense que si plus tu t'éloignes temporellement du temps où t'es diplômé de ton école, plus tu te dis ok, en fait, bah maintenant ma vie elle m'appartient, elle appartient plus à ce que j'ai fait, quelle étude j'ai fait, elle est juste, c'est mes choix, et t'arrives à prendre un peu plus de recul et à te dire ok, qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je le fais. Et du coup, si tu vois, tu finis et que tu te dis en fait moi je veux absolument faire du marketing produit, bah c'est bien que tu aies refusé déjà le CDD et puis même s'ils te proposent pas un job dans cette boîte, tu pourras chercher ailleurs et prendre le temps, quoi. C'est enfin, je te dis ça sans vraiment te connaître, plein de gens ont des situations particulières qui n'ont pas la possibilité, mais disons que si tu as la possibilité, typiquement, tu vois, de rentrer chez tes parents et d'être accueilli, quoi, ou d'être chez toi, enfin quelque part, et d'avoir le temps, parce que tout le monde l'a pas, en fait, la possibilité d'être accueilli, d'être entouré. Et ben ça, c'est un privilège qui est énorme, et je pense que beaucoup de gens ne l'utilisent pas parce que ça fait peur, parce que ils préfèrent être dans leur truc, et en fait ça vaut le coup, quoi. Donc voilà.
Typiquement, enfin là justement, je pense que j'étais moins stressée pendant le premier confinement, j'étais un peu chill parce que j'étais chez mes parents et que du coup enfin, je sentais quand même que j'avais le temps et que, au pire, bah, c'était la crise, il y avait pas d'emploi, ça allait passer. Et puis, j'ai pas mal pris le temps de réfléchir et du coup de vraiment cibler que les offres, comme tu disais, que genre où je me reconnaissais vraiment et où je me disais là, j'accepte, je sais que je veux ce job. Et là, du coup, bon, petite histoire perso, mais du coup, je viens d'emménager en coloc. Et du coup, il y a ce petit côté financier qui fait genre toc toc. Et du coup, où tu te dis bon, là, si je trouve pas quand même, enfin, en fait, on a quand même signé pour rester en coloc à long terme. Et du coup, je peux pas trop me permettre de revenir chez mes parents et tout. Bon, après, c'est pas, enfin, je suis pas trop stressée financièrement non plus, mais du coup, c'est plus présent qu'avant, en tout cas, ou qu'à la sortie de l'école, quoi.
Ouais. Du coup, ça, je comprends. Et la question financière est de toute façon une question hyper, hyper importante à poser sur la table de manière hyper claire, à mon sens. Alors vraiment, moi, ce que j'ai fait pendant le confinement et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est de vraiment me dire, enfin, ça allait dans la suite de ma réflexion sur quel sens je mets au travail, quelle place je mets au travail. Et en gros, je me suis dit, de combien j'ai besoin, vraiment très, très, voilà, rationnellement, pour...
Est-ce que tu as fait un petit Excel aussi?
Je n'ai pas fait mon Excel, mais sur une feuille de papier, de mettre tes dépenses et de mettre... Ouais, enfin non, mais en fait, ça demande deux choses. Ça te demande de réfléchir à quelle vie, quel mode de vie tu veux. Parce qu'il y a ça. Et il y a aussi te dire, OK, donc voilà mes postes de dépenses, quoi, en gros. De combien j'ai besoin pour être... C'est pas pour vivre, parce que ça veut rien dire, en fait. De combien j'ai besoin pour être libre dans mes décisions. Pour moi, c'est ça. C'est quand t'as pas un certain seuil, tu prends des décisions pas libres, quoi, rapides. T'as besoin d'argent parce que tu dois payer ton loyer et que t'as pas assez, bah tu prends un job de merde. Mais après, du coup, t'es dedans et t'as plus le temps pour réfléchir, pour postuler un autre truc. Enfin, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Mais pour moi, c'est hyper important à des moments dans la vie de se poser la question de combien... de combien tu as besoin, parce que c'est assez libérateur en fait de savoir. Et après, je pense que c'est pas forcément évident. Enfin, je te dis ça, je veux pas dire de vérité générale parce que c'est pas du tout le but, et je pense pas que ce soit une vérité pour tout le monde. Je dis juste que moi, ça m'a vachement aidée parce que j'avais ce sentiment de, bah, comme toi, moi, c'était pas le loyer d'une colocation ou quoi, moi, c'était un prêt. Un prêt et qui pèse dessus. Et en fait, ce prêt qui était associé à l'école de commerce, qui était censé me permettre d'accéder à tout, tu vois, m'a rendu beaucoup moins libre, en fait. Les gens qui ont pourtant fait des choix jugés moins sécurisants dans la façon dont on juge les études supérieures en France, mettons. Et pourtant, ils sont beaucoup plus libres que moi, tu vois. Et ça m'a rendu folle pendant des années. Je me suis sentie tellement pas libre. Et le fait d'avoir fait ce travail et aujourd'hui vachement déconstruit mon rapport à l'argent que tu gagnes dans le travail, à la valeur que je pensais qu'on avait en ayant fait une école comme ça, des supérieurs, VS, en fait, la valeur qu'on a, tu vois. Et ben, ça m'a beaucoup aidée et je me sens beaucoup plus libre comme ça. Donc, je pense que c'est un calcul à faire aussi pour toi, tu vois, de te dire j'ai cet enjeu, je sais qu'il est là, il disparaîtra pas, je dois payer mon loyer, tu vois, combien exactement il me faut. Je te dis ça parce que je pense
c'est marrant parce que j'ai fait ça en faisant trois niveaux. J'ai fait une fourchette basse, une fourchette moyenne et une fourchette haute, et c'est drôle parce qu'en fait la fourchette basse, enfin, donc c'est une fourchette où clairement, normalement, d'après mes calculs, je pourrais vivre et bien, tu vois. Et je pense que, en tout cas là, je sais que j'accepterais pas un salaire à ce niveau-là. Enfin, je trouve ça trop bas. Alors qu'en soi, j'ai fait un calcul, il y a mon petit Excel et tout, et ça tombe à ce prix-là, quoi. Mais psychologiquement, j'ai toujours un truc où je pense que j'ai quand même un salaire minimum en tête, dont j'arrive pas à me défaire, en tout cas pour l'instant. Et pareil, toujours un peu dans cette optique de, c'est pas parce que je travaille dans une industrie culturelle qu'il faut que je me vende au rabais, quoi. Et enfin, je sais pas. Non, bon, mais t'arrives à... Est-ce que du coup t'as défini ce dont t'avais besoin?
Alors, j'ai défini justement, oui, ce dont j'avais besoin, mais je comprends en fait ce truc de... Parce que je ne l'ai pas défini, enfin, je l'ai défini il y a déjà un petit moment, en fait, j'avais une bonne idée de ce que c'était. Et sauf que moi aussi, en fait, j'ai déjà vu des offres qui me plaisaient et je ne les ai pas du tout contactées parce que je me dis non, ça a l'air trop bas. Et aujourd'hui, je me dis honnêtement plus du tout ça parce que je me suis rendu compte aussi en vivant à Paris et en étant entourée de gens qui ont des métiers entre guillemets traditionnels d'une sortie d'école supérieure, voilà, que en fait il y avait quelque chose que bien plus important en tout cas pour moi que l'argent, qui est le temps, et que j'ai remarqué. Alors après, c'est peut-être pas du tout une vérité absolue qui est vrai dans tous les cas, mais que globalement ces jobs là de cadre à responsabilité et tout, tu vas monter en salaire, tu vas monter en responsabilité, tu vas monter en temps travaillé. Et en fait, ton temps à toi, eh ben, il diminue. Et moi, si j'ai bien compris une chose avec le confinement et toute cette année, c'est qu'en fait, pour moi, le travail, c'est pas ma vie, quoi. Et que tout le reste, par contre, c'est ma vie. Et que je veux pas que mon travail me prenne tout ce temps, enfin, un temps que je juge trop. Donc, si tu veux, à partir de là...
Même si t'as un travail que tu kiffes vraiment et...
Bah, si j'ai un travail que je kiffe vraiment, je veux dire, c'est... En fait, tu vois, moi, ce qui s'est passé pendant le confinement, il faut que je t'explique les racines du truc, mais c'est que je me suis dit... tu vois, là, on vit quand même quelque chose d'hallucinant, quoi. Une pandémie mondiale qui, finalement, quand on regarde les chiffres, n'est pas, ne tue pas plus que certaines autres maladies. Enfin, c'est immense par la rapidité du processus et par le fait que ce soit mondial et voilà, et accéléré par tous les flux qui sont interconnectés aujourd'hui. Mais je me suis dit, de toute façon, l'avenir vers lequel on tend, et plein d'inconnus comme le Covid, tu vois. Je sais pas ce que ça va être, mais il y en aura d'autres. Et du coup, je me dis, imagine que même là, avec le Covid, tu serais tombé malade et que tu aurais été une de ces personnes pour qui c'est plus grave et tu meurs, tu vois, par exemple. Est-ce que tu te dis bah, que ça va, que c'est OK, quoi. Que genre, bah, ta vie, t'en étais plutôt satisfait et que t'as fait des choix avec lesquels t'es OK. Eh ben moi, je l'étais pas du tout. J'étais pas du tout OK. Mmh. J'étais pas du tout OK de vivre à Paris, de passer 2 heures ou 1 heure et demie dans les transports. J'étais pas OK de passer autant de temps à bosser. J'étais pas OK d'être dans une société qui est ultra productiviste, consumériste, de vivre dans ce système. J'étais pas du tout OK. Alors du coup, bah, à partir de là, tu te dis OK. Donc, sauf que en fait, il y a la vie, quoi. Il va falloir que je paye mon prêt qui va pas disparaître. Il va falloir que je paye un loyer ou que je sois, même si je suis pas à Paris, il y en aura un. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est là qu'est venu le truc de bah, vraiment se poser les chiffres et te dire à partir de quel seuil c'est bon. Mmh. Et aujourd'hui, je postule à des offres, tu vois. Mmh. Et ben, je me dis, alors que je me disais comme toi que même si j'ai défini ce seuil, ah, je peux pas postuler à ce seuil-là parce que je peux pas, quoi. Je sais qu'on peut obtenir plus et tout. Mais en fait, si jamais je trouve un taf qui me fournit en fait le fait que bah c'est un job qui me plaît globalement, où je suis utile, voilà. Après je sais très bien maintenant que je cherche plus un métier qui va m'épanouir. Enfin je sais que moi je suis le profil de personne qui va avoir plusieurs activités, oui. Et qui c'est pas ça le but, quoi. Par contre qui me laisse la possibilité d'avoir du temps et d'avoir un équilibre en gros dans ma vie, tu vois, entre bah voilà avoir une rémunération et un job dans lequel je me sens utile et à côté du temps pour les gens que j'aime, pour mes proches, pour mes activités, et que ça ils sont justement à ce seuil minimum que j'ai défini, bah je prends, parce que déjà, j'ai arrêté de me faire des plans, comme je te disais, sur plusieurs années, il faut que ce soit cohérent, ce que je vais faire après, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Mmh. Et alors après, sincèrement aussi, c'est que cette année, donc ça a été une année particulière, j'ai aussi... rencontrer des personnes qui m'ont aidé à réaliser que ce genre de vie en fait était possible et que quand tu fais des choix un peu comme ça où tu te dis bah je prends un job qui est pas forcément payé ce que moi j'estimerais valoir après telles études supérieures, mais je le prends parce que le job me plaît, qui me laisse du temps et que et voilà, en fait tout est réuni sauf cette somme que j'aurais aimé avoir parce que j'estime la valoir. J'ai une somme qui est inférieure mais qui me permet de vivre, et ben en fait tu peux très bien vivre comme ça, être très heureux comme ça. Mmh. Parce que en fait tu sais, enfin à mon sens hein, vouloir plus, gagner plus, ça te fait aussi vouloir consommer plus, vouloir plus de choses, et t'es pas plus heureux comme ça, enfin. Mmh. Donc à un moment, si tu as un peu réaligne aussi ta façon de vivre avec ton nouveau salaire, tu peux très bien kiffer autant qu'avant, voire plus, quoi.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Après c'est juste une balance à avoir, mais moi c'est pas plus du tout un truc que je. Enfin là j'ai postulé à des offres où le salaire il est à 1 500 euros, quoi, et je j'ai pas. Enfin après tu vois ça dépend aussi de l'entretien, comment se passe le truc, si je le sens ou pas. Mais je veux dire, si je le sens, et que c'est cohérent avec ce que je veux, c'est-à-dire, enfin moi, je te dis, bosser 45 heures, 50 heures par semaine et être cadre, je m'en bats les reins, enfin vraiment, vraiment, c'est... Donc voilà, il y en a, je pense, il y a des gens pour qui ce discours, il peut passer pour de la fainéantise absolue. Mais c'est pas le cas, enfin franchement, je te jure, genre...
Oui, enfin, ça ne sonne pas comme ça, en tout cas.
Non, mais en fait, c'est juste que, quand tu te poses la question, peut-être qu'il y a des gens qui, ouais, ils veulent travailler dans leur vie. Moi, je veux pas, en fait. Moi, je veux travailler moins et vivre mieux. Vivre, en fait. Okay. Voilà. Okay. C'est...
Et je me posais la question, d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais sur ton job à Paris, etc. Si tu retrouvais le même job, mais dans une ville où t'es bien, etc., tu penses que ça te plairait ? Ou là, t'es vraiment partie dans le SS et...
Je pense que si j'avais été dans ce job, dans une ville en province,
ouais.
C'est pas sûr du tout que je l'aurais quitté, parce que je le kiffais, mon job. Enfin, après, okay. Tu vois, le métier de commercial, c'est pas forcément mon profil. Mais ça se passait très bien et voilà, le secteur me plaisait. Donc, je pense qu'ailleurs, ça aurait été différent. Mmh. Que ça a été à Paris, donc vraiment, la question ne s'est pas posée. Et là, aujourd'hui, c'est juste qu'en fait, ça m'a ouvert d'autres portes. Le confinement m'a ouvert d'autres portes. J'ai été côtoyer d'autres, d'autres secteurs, notamment le secteur de l'ESS. Et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire là et j'ai plein de compétences que je peux mettre au service de projets comme ça qui ont de l'impact, qui moi sont bien plus cohérents en fait que ce que je faisais, même si voilà, j'adore la culture dans mes activités personnelles, si tu veux, mais je trouve que ça a plus de sens, en tout cas pour le temps que je veux destiner à mon activité professionnelle, de le destiner à des enjeux écologiques, sociaux, de solidarité, que la culture, même si voilà, la culture est nécessaire, mais c'est juste voilà, c'est la réalisation que j'ai eue cette année. Et je suis, du coup, non, en fait, il y en a encore, hein, des postes dans la culture, il y en a tout le temps, mais je veux dire, non, ça me dirait plus d'y postuler, parce que voilà. Et là, tu vois, aujourd'hui, c'est rigolo parce que je postule pas de la même façon qu'il y a un an. Avant, j'avais envie, parce que la culture, c'était aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup, je mettais vraiment beaucoup de passion en mode ouais, vraiment, je veux ce job et tout, et si je l'ai pas, je vais mourir, quoi, presque. Alors que aujourd'hui, c'est, tu sais, j'ai postulé à une offre ce matin qui me plaît, hein, franchement, l'offre a l'air trop cool, c'est hyper intéressant comme projet, mais déjà, si je l'ai pas, c'est pas grave, parce que bon, déjà aussi parce que voilà, j'ai le chômage, je peux me permettre de dire si j'ai encore le temps, mais en plus c'est pas grave parce que c'est la vie, quoi, et c'est pas le plus important, le travail. Et surtout, je me dis, c'est plus de l'utilité que je recherche maintenant que de la passion, parce que la passion, je la mets plus dans mes activités personnelles, tu vois. Genre, j'adore faire de la musique, j'adore me balader dans la forêt, tu vois. Ça, c'est là où je mets la passion et mon envie quotidienne. Mon travail, s'il y en a, tant mieux, mais je veux surtout de l'utilité, que ce soit quelque chose de, voilà, de, qui me aussi me reste, tu vois, tu parlais tout à l'heure en off, du coup, du côté dans ton travail, les petits soucis avec le rapport à la femme et tout. Typiquement, ça, c'est quelque chose que moi, je fais vraiment attention aussi dans mon, enfin, que j'aimerais dans mon taf, c'est qu'il y ait vraiment un respect, tu vois, et quelque chose de, voilà, c'est un lieu qui est très important, et pour moi, il faut qu'il y ait des choses de base, et c'est pas forcément la passion, tu vois. Les rapports humains, c'est le respect, c'est l'utilité du projet en général, et voilà, quoi.
Mais alors, est-ce que si tu pouvais être genre rentière et faire que tes activités, ça te plairait, tu penses? Genre, en fait, c'est juste que je me suis posé la question après ce que tu disais.
Je sais pas, parce que si j'étais rentière, je ne serais pas probablement pas moi, enfin, je n'aurais pas les mêmes considérations. Non, mais je vais te répondre avec une autre réponse.
Quand tu disais travailler moins.
Non, mais justement, tu vois, mettons, s'il y avait un revenu universel en étant un être humain, et ben ouais, ça, je kifferais, parce qu'en fait, je pense que, bon, non pas que je travaillerais pas, je pense que je travaillerais quand même, mais c'est juste que, enfin, en même temps, je te dis ça, mais je sais pas, parce que moi, oui, ça aiderait, parce que ça te donne encore plus de liberté dans le fait de...
Oui, c'est ça. Tu peux dire, je pourrais faire du bénévolat,
voilà.
Je pourrais,
voilà. Mais en soi, pour moi, l'argent est plus tellement un problème. Par contre, tu vois, je me dis, c'est ça aussi, quand tu lâches prise au niveau de ces questions-là, enfin, moi, ça a été particulièrement la question d'argent, parce que c'était ça qui était le plus lourd pour moi.
Okay.
Mais quand tu lâches prise sur toutes ces questions du doute, de la cohérence et tout, ben, en fait, tu te dis juste, est-ce que je veux... qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là? Et attends, j'ai oublié ce que je voulais dire.
C'était bien parti en tout cas. Ma question, c'était si tu pouvais juste faire tes passions pendant,
oui,
pendant toute la vie sans travailler.
Et oui, je disais donc que la question de la rémunération n'était plus pertinente. Ah oui, ce que je voulais dire.
Ah oui, pardon, le revenu universel.
Quand tu lâches sur un peu du lest sur ces questions de cohérence et tout, moi je me dis que dans ma vie, je vais faire plein de trucs différents, que en fait, tant que j'assure ce salaire que je veux, c'est pas un problème. Et surtout, tu vois, je me vois bien, je sais pas comment va évoluer la société, mais moi je me dis qu'à un moment aussi, quand tu définis un montant, en soi, tu peux aussi le faire. Si c'est une activité qui est assez rémunératrice, par exemple, sur 4 jours, tu vois, en temps partiel, et te dégager un jour pour faire du bénévolat, pour faire ce que tu veux, en fait, hein, faire ce que tu fais dans la vie, voilà. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que il y a d'autres façons de travailler que moi, perso, je sais pas ce que je cherche actuellement, mais peut-être que j'y viendrai dans ma vie, tu vois. Enfin, de faire du temps partiel de manière volontaire, tu vois, ou de faire ou d'être entrepreneur, ou je sais pas. Mais du coup, ça répond pas du tout à la question, mais.
Non, mais c'est intéressant quand même. Ouais. Ok.
Voilà, et je sais pas si ça te paraît cohérent, tout ça.
Bah si, si. Et du coup, genre, tes passions, ça prend quelle place? Parce qu'en fait, ça me faisait penser que, genre, moi, j'ai eu pas mal d'hésitations ou de doutes un peu en rapport avec mes passions. Parce que, bah, pareil, je m'intéresse beaucoup à la culture. J'aime bien dessiner, etc. J'aime bien un peu la musique. Mais alors, j'ai des passions souvent qui sont, j'ai beaucoup de passions, mais on va dire à très faible intensité. Genre, je m'intéresse à beaucoup de choses et souvent je switch pas mal. Et du coup, genre, plusieurs fois j'ai eu des doutes en mode ah, j'aime bien le droit, c'est stylé, etc. Ah merde, mais pourquoi j'ai pas fait du droit? Ou ouais. Ah, j'adore l'histoire, j'adore, enfin, genre, j'aime beaucoup l'histoire de la Révolution française, etc. Et du coup, de temps en temps, enfin, je sais plus, quand j'étais à l'EM, de temps en temps, je me disais, mais. Je pourrais m'inscrire à une licence d'histoire et écrire une thèse sur la Révolution française, ce serait trop bien. Et bon, après, ça passe, quoi. Et du coup, j'ai un peu ce truc où je m'inscris à... Pendant le confinement, je me suis inscrite à plein de MOOC en ligne sur des sujets complètement différents, où j'en ai fait genre 1/2, mais... Enfin, du coup, est-ce que toi, t'es... Plus passion, genre vraiment,
mais non,
t'as des passions très intenses.
Non, je suis vraiment pareil que toi, c'est-à-dire que je m'intéresse à plein de choses. Non, mais c'est vrai, genre moi aussi, pendant le confinement, j'ai fait des MOOC. Qu'est-ce que je suis... Non, mais vraiment pareil. Mais c'est juste que, en fait, moi, je trouve ça pas... Enfin, genre, par exemple, tu vois, j'adore l'espagnol.
Ouais.
Et je me suis dit, je vais être prof d'espagnol, en fait. Enfin, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas grave. Et surtout, genre, pour moi, enfin, c'est perso, mais du coup, je me dis... ok, donc ça montre que j'aime plein de trucs. Après, tu vois, genre, justement, je pense qu'il y a plusieurs genres de personnes, de profils vis-à-vis de la passion. Pour moi, c'est pas genre juste la passion qui te consume une seule, unique. Non, c'est juste, moi, je suis passionnée, c'est découvrir plein de trucs, je m'intéresse à plein de choses, et voilà. Mais, encore une fois, moi, ça me dérange moins, et pourtant, j'étais comme toi à me poser plein de questions, et encore aujourd'hui, je me pose des questions, forcément, j'ai des doutes et tout. Enfin, c'est genre l'histoire de ma vie, et ça continuera toute ma vie. Mais le fait enfin, en tout cas, moi, le fait de me dire de plus en plus que justement, ça fait partie de ma vie de me poser des questions, de me dire, bah, en fait, j'aime trop ça, peut-être que je devrais faire ça, ça va pas s'arrêter. Et ça montre justement peut-être que tu vois, par rapport à des gens qui se posent pas de questions, qui genre sont dans leur voie et qui avancent. Et d'ailleurs, ils avancent plutôt bien. Donc, moi, des fois, ça me complexe. Je me dis, putain, moi, j'avance pas, j'ai 27 ans, tu vois, genre. Ouais, mais en fait, je pense que je me connais très bien et de mieux en mieux, tu vois, et je me connais bien mieux qu'il y a 7 ans. Et en fait, du coup, en étant dans tes doutes et tout, déjà, tu peux te dire que en doutant, t'apprends beaucoup de choses. Que si tu doutais plus, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même partie de ta personnalité, du coup, de te poser des questions, d'être curieuse et tout. Et ben, t'apprends des choses et peut-être que oui, tu seras de ces personnes qui n'auront pas un métier passion. Combien de personnes ont un métier passion? Très très peu en fait, tu vois. Et ben c'est pas grave, t'auras plein de métiers, d'activités différentes et ça fera ton chemin à toi perso. Peut-être qu'un jour tu feras une thèse sur l'histoire, franchement. Non, mais on sait pas, ou un, je sais pas, un podcast sur l'histoire de France, tu vois. Mais moi, je trouve ça chouette. En fait, avant, tu vois, ça me complexait de ouf de me dire, mais je suis une girouette, en fait. Genre, tout le temps, je suis pas adaptée à ce monde, quoi, où il faut être hyper linéaire et avoir un CV qui est hyper béton, et voilà. En plus, tu vois, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression qu'à l'UEM, on nous a appris à rendre même les choses les plus incohérentes cohérentes, tu vois. Moi, j'arrive. mais pour autant, moi, je sais pas, je trouve ça chouette, hein, un CV. Tu vois, genre, Apolline qui est là et qui nous écoute. Enfin, je trouve ça trop cool que tu fasses plein de trucs. Et moi, j'adore les gens qui font plein de choses différentes. Je trouve ça qui les rend riches, tu vois. Et se poser des questions. Alors oui, c'est épuisant, franchement. Mais c'est ça qui nourrit aussi le fait que tu veuilles évoluer et t'enrichir. C'est juste que toi, tu t'enrichis pas en allant à fond dans des passions. Genre, moi, j'ai un pote qui est passionné de musique. Il est incroyable. Franchement, il fait plein de trucs. C'est sa passion, tu vois. Genre, il a arrêté de travailler. Lui, tu vois, il devient rentier. Et bah, oh, il fait quoi? Il fait de la musique.
Il fait de la musique, ouais. Il fait
un rentier, mettons, tu vois. C'est peu probable. Ben, je sais pas ce que je ferais. Je ferais plein de trucs. J'ai pas une idée où je me dirais, ah, je ferais ça. Et du coup, en fait, ouais, ça m'arrive d'avoir des lubies très très souvent, de me dire, oh, j'adore l'espagnol, j'ai regardé la Casa de Papel, je suis à fond là, je vais être professionnelle. Non, ce que ça veut dire, c'est que tu vois, bah, j'aime l'espagnol, j'aime transmettre, et ben, en fait, ça, tu peux l'appliquer. En fait, c'est ça, c'est plus des traits de personnalité de toi qui ressortent, je pense, par les choses que t'aimes, et après que tu peux appliquer dans plein de domaines, et pas que professionnel, dans plein de domaines.
Oui. Mais effectivement, ça, c'est marrant parce que là, en discutant, du coup, j'ai l'impression que parfois je sais pas si t'as ça aussi, du coup, vu l'histoire de l'espagnol, mais à vouloir transformer des passions en métier. Alors que, en fait, c'est pas la peine, c'est pas grave.
C'est hyper rassurant.
C'est pas parce que t'aimes le dessin que t'as besoin de devenir illustrateur et que, voilà, enfin.
Bah, je pense que c'est hyper rassurant, un métier passion. Moi, ça m'a toujours, je me rappelle quand j'étais au début de l'EM et tout ça, où vraiment, je l'ai hyper mal vécu, mon début, une grosse partie de mes études quand même, parce que je me sentais pas à ma place, et en fait, genre, les gens qui avaient une passion, ou même, tu vois, les gens qui veulent une vocation, plutôt. Je trouvais ça incroyable. Incroyable. En fait, je me disais, putain, mais les gens qui savent depuis petit qu'ils veulent être médecin ou avocat, enfin, c'est trop bien, et je veux ça, en fait. Et je pense que, forcément, quand t'aimes un truc, que ça te stimule, que t'es excité, t'as envie de te dire, ah, bah, je vais en faire un métier, comme ça, bah, si tu aimes ton métier, tu n'auras pas à travailler aucun jour de ta vie, tu vois. Mais, en fait, non, mais c'est parce que, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression, ça fait un peu vieille conne de dire ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un énorme diktat sur le fait d'être passionné par ton métier, tu vois, de t'épanouir dans ton métier, de vraiment, c'est genre le lieu de l'épanouissement. Je sais pas, c'est pas obligé, enfin, tu vois, moi, dans mon entourage familial notamment, je suis en réfléchir, je sais pas, on est vraiment très 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 peu à avoir fait des études supérieures, enfin longues, tu vois, et vraiment il y a des métiers de toutes sortes, et il y a pas énormément de métiers passion. Et tu vis pas moins bien, tu vois. Moi, je pense que, en fait, le plus important, la question à se poser, en fait, c'est juste, c'est pas genre, quel métier va me permettre de m'épanouir toute ma vie, surtout quand on a notre profil, entre guillemets. C'est plus, quel genre de vie je veux, quel équilibre je veux, et qu'est-ce qui m'importe, quoi. Dans quoi j'ai envie de m'impliquer. Mais après, ça peut se traduire par plein de métiers. Je me rappelle, j'étais allée voir un conseiller en orientation, pas un conseiller d'orientation, genre un psychologue spécialisé dans l'orientation. Okay. Et il m'avait parlé de, on parlait de transmettre, en fait, le fait de transmettre. Mmh. Et en fait, moi, j'associais vachement ça à l'éducation, à l'enseignement, la formation, tout ça. En fait, transmettre, c'est genre hyper large. Tu peux faire de la photographie, transmettre. Tu peux faire un podcast, transmettre. Il y a plein de choses. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment se dire, se poser des questions un peu autrement, en fait, changer le focus de ce qu'on fait aujourd'hui.
Sur ce que tu disais, j'ai deux remarques, j'espère que je vais m'en souvenir, mais du coup, déjà, quand tu disais qu'à l'EM, il y avait des gens qui avaient des passions, et etc., et que tu étais admirative devant ça, moi, je pense que je suis très sensible à ça. Et c'est notamment pour ça que j'ai continué à un peu hésiter pendant mes études à l'EM, parce que j'étais assez sensible à ce que mes potes faisaient.
Ouais.
Et en fait, quand mes potes étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, enfin, je sais pas, ça me parlait. Et même si c'était pas forcément un domaine qui m'intéressait de base, quoi. Et typiquement, bah, genre là, ma coloc actuelle, elle fait de la finance. Et quand elle me parlait finance, ça avait l'air trop cool, bah, parce qu'elle aimait ça. Et du coup, elle en parlait bien, etc. Et du coup, c'est un peu sous cette influence-là que j'ai continué à prendre des petits cours de finance, à m'acheter un petit livre de finance au cas où, etc. Et enfin voilà, je pense que je suis un peu assez sensible à la transmission des passions des gens.
Je sais pas si c'est toi qui es sensible à ça ou juste c'est un truc général. Enfin moi j'ai l'impression que c'est juste général quand tes amis ou les gens que t'aimes en fait, que tu estimes, tu vois. Genre ça peut être tes amis, ça peut être la personne avec qui t'es, qui se passionne pour quelque chose, bah c'est contagieux quoi. Donc en fait. Moi, ça me choque pas. J'ai pas, enfin, je sais pas, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit un truc.
Enfin, je le dis pas en mode négatif, mais.
Non, mais clairement, c'est plutôt très cool parce que ça te permet de t'ouvrir à d'autres trucs que justement toute seule, t'aurais peut-être pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est commun et que bah, même quelqu'un, tu vois, qui serait passionné par la stratégie d'entreprise ou par la. Je sais pas, supply chain.
Est-ce que t'as essayé de trouver le truc le moins
pas du tout. Je suis en train de réfléchir dans mes amis qui est passionné par un truc genre d'école de commerce et j'ai une amie qui est vraiment fan, qui est vraiment ouais la supply chain, c'est elle kiffe quoi. Et c'est même ces gens-là, je pense, peuvent avoir ce phénomène-là. Et pour nous qui sommes sûrement plus, enfin, curieux et sensibles de découvrir différents domaines, en effet, ça doit avoir cet effet-là. Mais moi, je trouve ça cool. Enfin, je sais pas si toi, t'as eu des complexes vis-à-vis de ça, en fait, de te dire, je doute trop. Peut-être que je ne suis pas adaptée au monde du travail.
Je sais pas si je me suis dit que j'étais pas adaptée au monde du travail, mais du coup, ouais, enfin, ce genre de truc alimentait mes doutes, alors que c'était pas forcément très très rationnel. Enfin, si je pense que c'est normal, etc. Mais typiquement sur l'histoire de la finance, je pense que c'était un truc. Enfin, maintenant que j'y repense, c'est presque un truc un peu bébête de le marketing ou la finance, et juste en fait histoire de me dire que. De me laisser un peu une porte ouverte et de pas me spécialiser parce que t'as aussi ce truc de comme il faut de la cohérence sur son CV etc. Une fois que t'es spécialisé en tout cas je trouve que en sortant de l'EM et quand t'as fait quelques stages etc. tu sens que l'étau se resserre un peu sur toi et que ça y est en fait tu pourras plus changer de voie et c'est fini et du coup faut vraiment avoir très très bien choisi parce que sinon c'est l'angoisse toute ta vie. Enfin bon, après, c'est pas. Enfin, je trouve qu'il y a un double discours en mode après l'EM, tu peux tout faire, c'était super libre. Aujourd'hui, le monde du travail, c'est super, poreux. Tu peux vraiment changer de métier. Il y a 5 ans, 50% des métiers n'existaient pas. Enfin bon, voilà. Ouais. Et en même temps, un truc de faut construire ton CV à fond. Voilà.
Mais ça, c'est, ouais, je sais pas si, ouais, je pense qu'il y a beaucoup du fait que ce soit le monde du travail qui est comme ça, en fait, parce que oui, tu vois, moi, j'ai entrepris un gros changement quand même de secteur, et en effet, je me suis fait refoule parce que j'ai pas d'expérience dans ce secteur, ce qui, en fait, à mon sens, est un peu bête, parce que je pense pas que j'ai pas les compétences pour, c'est juste que par rapport à d'autres gens qui ont l'expérience, ils vont privilégier ces personnes. Alors oui, c'est pas, je trouve pas ça dingue. C'est aussi parce que c'est des secteurs qui ont beaucoup de demandes. Enfin, il y a plus de demandes que d'offres. Pour la finance, honnêtement, je m'y connais pas, mais j'imagine que c'est plutôt un secteur où c'est difficile de rentrer quand t'as pas fait d'expérience, comme le marketing probablement. Mais en tout cas, là où je vois un rayon de lumière, c'est que tu vois quand tu bah typiquement quand tu arrêtes ton activité parce que c'est difficile quand t'es en activité déjà d'avoir le temps des fois la liberté d'esprit la charge mentale disponible pour penser à tout ça mais quand t'as le temps de penser à tout ça tu as des possibilités. Et notamment, je trouve que le bénévolat ou l'associatif, tu vois, c'est quand même un gros outil. Enfin, tu vois, il y a des associations qui ont besoin de personnes qui vont gérer la finance, en fait. Ou, je sais pas, enfin, dans quelle mesure, mais je trouve que c'est enfin, moi, là, j'ai l'impression que c'est un peu un truc pour carjacker le système, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est que si à un moment on te ferme des portes parce que t'as pas l'expérience, enfin, c'est un serpent qui se mord la queue, quoi. Comment dire, oui, mais comment je vais avoir l'expérience si on ne la laisse pas l'avoir? Là, bah, aller chercher l'expérience ailleurs, je pense que c'est pas mal. Après, je dis ça, mais moi, les postes vers lesquels je tends, c'est quand même moins, je pense, comment dire, conventionnel, enfin, pas conventionnel, mais il y a moins de barrières à l'entrée, peut-être.
Oui.
Mais le nombre de gens qui postulent, et il y en a énormément, tu vois. Mais voilà, peut-être que c'est moins strict à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut penser quand même aux méthodes alternatives, des fois, quand on a envie de changer de voie. Que ce soit, par exemple, toi, si un jour tu décides d'aller dans la finance ou dans toute autre chose. Enfin, là, je pense à une amie, bah, du coup, qui était sur Plouf il y a quelques semaines, et qui est passée une pâtisserie. Et franchement, c'était ma coloc, hein, on se connaît depuis un moment. Et en fait, elle a touché ce secteur de, tu vois, elle y allait, elle y revenait, elle y allait, elle y revenait. Elle a voulu faire un stage dedans. Et en fait, un peu comme ça, à tâtons, tu commences à te faire de l'expérience. Et puis un jour, bah, tu te dis, bah ouais, en fait, j'y vais, quoi. Mais je pense qu'il faut commencer. Si t'as pas une porte d'entrée directe ouverte, ou que tu t'offres là-haut, il faut trouver un autre moyen pour faire ton chemin, quoi.
Je sais pas, Gabi, toi, pour la culture, peut-être que t'avais un truc à dire aussi par rapport à ce que tu parlais de la cohérence.
Ouais.
Ton CV, le fait que t'avais voulu reprendre un stage, justement, est-ce que tu penses que ce stage et le fait d'acheter une convention, c'est aussi ton moyen un peu de carjacker ton entrée?
C'est un peu ça, non?
Ouais.
Ouais, bah oui. Bah, c'était...
Parce qu'avant, tu travaillais... Avant, tu travaillais pas dans les... Tu faisais du marketing en quoi?
Avant, en gros, j'ai fait un stage de marketing. Oui, il y a du bruit. Il y a un stage de marketing dans une boîte qui vendait des box cadeaux. Un stage dans une maison d'édition.
Ouais.
Et un stage, du coup, dans le jeu vidéo. Et en fait, j'ai toujours cherché des choses dans le divertissement, la culture, etc. Et puis, en ayant toujours en tête quand même les jeux vidéo. Et c'est vrai que bah toujours du coup ils demandent des expériences préalables dans ce domaine en particulier. Et
attends, moi j'aimerais bien parler de ça deux secondes parce que les 3 à 5 ans d'expérience, moi ça me rend.
Oui. Oui.
En fait, en plus de ce que j'en ai parlé et tout avec des collègues, et pour moi cette partie de l'offre,
oui.
C'est vraiment un truc. Il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Enfin, c'est un...
Ah oui, oui, je suis candidate parce que
là, si tu fais des offres, il faut 3 à 5 ans d'expérience, mais j'ai voire rien, soit un petit peu, tu vois. Donc,
oui. Le pire, c'est 3 à 5 ans d'expérience entre parenthèses dans le même poste. Alternance.
Ah ouais, non mais...
Ça c'est vraiment.
Faut pas s'arrêter là, je pense. Après, tu vois, moi, ton parcours de l'extérieur, il me paraît pas du tout incohérent. Je pense qu'il y a aussi un truc qu'on se met une pression, en fait. Beaucoup sur on se juge assez sévèrement, je trouve. Enfin, je dis pas tout le monde, mais enfin là j'ai l'impression que, enfin tu vois, moi ton parcours de l'extérieur il me paraît cohérent d'une personne qui veut faire du marketing produit dans différents domaines. Enfin, c'est pas grave que t'as fait de l'édition, que t'as fait d'autres choses. Bien au contraire, quoi. Et je pense que tu vois, c'est aussi un truc, c'est que des fois on a tendance à se juger un peu trop négativement, ou à se dire que ce qu'on fait va être jugé négativement.
Oui, oui, c'est surtout
alors,
ça, je pense.
Alors, ouais, c'est ça, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et voilà, et t'es quand même... je dis ça parce que j'ai fait le recrutement sur mon poste donc, que j'ai quitté, et j'ai vu les candidatures qu'on a reçues, et je me rends compte aussi que, de manière générale, cette école... et le chemin que tu as fait pour y accéder, elle t'a quand même appris beaucoup de choses et qui disent des choses aussi de ta personnalité, de, tu vois. Enfin, moi, à l'UM, si ça m'a appris un truc, et c'est pas du marketing ou de la finance ou de la compta, c'est d'être débrouillarde en fait et d'aller chercher des interlocuteurs et sur des choses, et ça c'est hyper valorisable et bien plus en fait je trouve que n'importe quel truc sur ton CV qui pourrait manquer de cohérence ou quoi. Donc
mais c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage, c'est que oui, clairement, enfin les, en tout cas je trouve que aussi les compétences les plus importantes c'est des savoir-faire ou des savoir-être qui sont pas forcément spécifiques à une industrie ou
Dans notre dans notre secteur, oui, tu vois, c'est pas de la médecine, c'est pas un truc technique.
Oui, c'est vrai, oui, après, clairement ça marche pas pour tout.
Mais oui, je sais pas, après moi je connais
les compétences sur le secteur, au final ça s'apprend vite. Bon après je pense que ça dépend des secteurs, etc. Mais en tout cas moi en arrivant dans le secteur du coup c'était un éditeur de bande dessinée. Je connaissais pas grand-chose à ce secteur-là, et en fait, bah, t'es mis dans le bain très vite, et tu t'habitues, et c'est pareil pour le jeu vidéo. Enfin, il y a pas besoin d'avoir 10 ans. Enfin, forcément, c'est plus valorisable que si t'as rien du tout, mais c'est pas non plus complètement négatif parce que
c'est pas négatif. En fait, le souci, c'est les secteurs. Donc déjà, quand tu cherches vraiment un poste, pas un stage, quand même plus facile. Mais il y a des secteurs, honnêtement, où en fait, c'est la demande qui est beaucoup trop forte par rapport à l'offre et qui là fait que du coup tu vas être discriminé sur ton manque d'expérience. Alors que tu vois, moi ça me rend triste en fait, parce que je me dis c'est dommage, c'est pas juste, et il y a plein de gens qui sont talentueux et qui ont les compétences pour aller dans certains secteurs, et c'est à ce moment là parce que j'imagine que rentrer dans un secteur typiquement comme la culture en étant stagiaire, j'imagine pas, je sais quoi, que c'est plus facile que de rentrer en n'ayant pas d'expérience et en cherchant un poste, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Mais d'où l'intérêt des choses, des chemins de travers, en fait, pour aller vers ça. Mais encore faut-il se poser la question et oser un peu changer de chemin. Et ça, je pense que c'est beaucoup un travail personnel à faire de se remettre en question, mais aussi de se dire que si le chemin qu'on avait imaginé ne se réalise pas, n'est pas parfaitement en alignement avec ce qu'on avait imaginé, c'est pas si grave et qu'on trouvera un autre chemin. C'est un peu se faire confiance aussi, je pense. Ouais.
C'est une belle conclusion.
Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus éclairé, ou du moins un peu plus entillé, pour pouvoir te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. En attendant le prochain épisode, tu peux nous retrouver au bord du bassin, où on rencontre des jeunes diplômés qui viennent partager leur parcours et leur relation à l'orientation. Ou alors on peut aussi se retrouver à l'écrit dans notre newsletter, Our Millennials Today, où on continue de creuser ces sujets. À bientôt!